Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je vous emmène au Maroc, où se tient actuellement la troisième édition du Festival de littérature africaine de Marrakech. Manifestation fondée entre autres par l'écrivain et artiste Maï Binbin, qui vient par ailleurs de publier « La nuit nous emportera ». Dans la lignée de ses livres précédents, « Le sommeil de l'esclave »,« Les funérailles du lait »,« Le fou du roi » ou encore « Mon frère fantôme », Maï Binbin poursuit son grand roman familial avec ici la figure de la mère. À l'occasion de ces deux événements, je vous propose donc de retrouver l'auteur qui m'a accueilli chez lui, près de Marrakech. Une rencontre pleine de sourires, d'éclats de rire même, et d'émotions. Bonjour Maï Binbin, et merci beaucoup de me recevoir ici chez vous à Marrakech, Marrakech qui est votre ville natale. Dans quel quartier avez-vous grandi d'ailleurs ?
En Médina, au fin fond de la Médina de Marrakech, dans une rue qui s'appelle Derb Jdid, à Riad Zitoun El Kedim. Et j'ai passé toute mon enfance en Médina, au milieu d'une famille nombreuse. Nous étions 7 frères et sœurs. Et ma mère, au milieu, qui est le personnage central de La nuit nous emportera.
Effectivement, et nous allons en parler longuement avec vous, Maï Binbin. Et le narrateur, c'est un petit garçon, Sami, qui dit d'ailleurs dans ce roman, La nuit nous emportera, qu'il a eu une enfance heureuse. Vous aussi ?
Oui, oui, heureuse, parce qu'il y avait cette femme, ma mère, c'est une femme exceptionnelle. Je crois que tout le monde va dire que sa mère est exceptionnelle, mais la mienne est particulièrement exceptionnelle. Mon père est parti quand j'avais 3 ans et j'ai pas ressenti l'absence du père. Elle était la mère, le père, les oncles. Elle était tout. C'était une montagne. C'est comme ça que j'en parle, comme une montagne de courage, de tendresse, d'amour. On était pauvres, très très pauvres. Elle était secrétaire et mon père a rejoint Rabat, le palais royal, parce qu'il est devenu le courtisan, on peut dire bouffon, oui, de Hassan II. Et elle s'est retrouvée seule avec 7 enfants. Elle était secrétaire. Elle ne gagnait rien. C'était un petit salaire. Ma grand-mère, d'ailleurs, c'est un personnage aussi dans le roman qu'on appelait Maman du Bled. Maman du Bled nous ramenait de la ferme de quoi manger. Le beurre, le lait, le petit lait, même pas le lait, le petit lait et surtout le blé. Et donc, on n'avait pas faim, mais il n'y avait pas un rond qui traînait dans la maison. On avait des sandales en plastique, on n'était pas pieds nus, donc ça allait. Et cette femme, à 40 ans, elle ne pouvait pas se permettre de baisser les bras, alors elle s'est mise à faire des études. À l'âge de 40 ans, elle n'avait pas le baccalauréat. Elle a fait 2 années une capacité en droit pour accéder à l'université. Après, la licence, la maîtrise, et elle est devenue de secrétaire dans son petit ministère des Finances à Marrakech, où elle était moins que secrétaire. Elle est devenue chef de service à 46 ou 47 ans. Et elle nous a inculqué cette rage de, voilà, vous pouvez vous battre. Vous n'avez pas faim. Vous avez une école. Vous n'avez pas le droit d'échouer, vous n'avez pas le droit. Moi, je réussis. Et vraiment, il faut être le premier de la classe. On ne pouvait pas être deuxième avec ma mère. Et on a tous été premiers de la classe. Mes sœurs sont professeurs à l'université. Mon frère a fait fortune aux États-Unis. Moi, je fais une carrière honorable. On va dire ça comme ça. Et même celui qui a fait la tôle, il a fait la meilleure tôle du monde, Tazmamat.
On va reparler de tout ça. Je reste sur le début du roman qui s'ouvre vraiment sur ce petit garçon de 5 ans là, qu'on voit courir dans les ruelles de Marrakech, qui se présente comme un petit garçon frileux. C'était vous ça aussi, Maï Binbin, le petit garçon frileux ?
La première page du livre, c'est vraiment, je l'ai vécu 1000 fois. Je me levais et je quittais la chambre où je dormais avec mes frères et sœurs. On dormait tous dans une chambre. Et j'allais vers sa chambre. Et j'attendais, elle entendait mes pas, Et elle me disait, viens, viens. Et elle me mettait entre ses jambes. Et je garde un souvenir extraordinaire, une chaleur. Et donc, je me sentais protégé. Il y avait ce monument de tendresse qui était là, qui me serrait dans ses bras. Et je finissais ma matinée avec elle au lit. C'est, voilà, j'avais envie de raconter cette histoire avec maman. Maman, elle existe dans tous mes romans, mais par bribes. Et là, elle est là, on la voit, du début jusqu'à la fin.
Alors c'est vrai que Mamaya, puisque c'est son surnom, et un personnage s'appelait déjà comme ça dans d'autres romans, par exemple Les Funérailles du Lait, et Mamaya avait aussi une servante comme ici qui s'appelle Johara, donc c'était un portrait en creux que vous faisiez d'elle jusqu'ici, et là c'est vraiment un portrait en majesté, Mai Binbin.
Oui, parce que j'ai écrit le Fou du Roi, où j'ai donné la parole à mon père, et c'est un livre qui a bien fonctionné, et je me suis dit, c'est pas juste, c'est à elle à qui revient le vrai honneur, si jamais je dois rendre un hommage à quelqu'un, c'est à elle. Et vraiment, j'ai raconté son parcours, et c'est un parcours que j'ai suivi jusqu'à la fin, même quand elle était malade, elle venait chez moi à Paris. J'ai profité d'elle quand elle était malade. Je passais un mois en tête à tête avec elle. C'est ces moments qui ont fait de moi l'écrivain que je suis aujourd'hui.
Effectivement, c'est ce qu'on devine entre les lignes, parce que Mamaya, ici, elle raconte à Samy des histoires le soir pour s'endormir. C'est une vraie conteuse. Est-ce que c'est d'elle que vous avez ce goût des histoires, des contes?
Oui, elle nous racontait des histoires, mais on avait, parce que dans le roman on prend certaines libertés, il y avait aussi la servante qui nous racontait. Et chez nous, il y avait une esclave que nous avions héritée de mon grand-père. Quelle horreur! Mais c'est comme ça. Et j'ai écrit un livre d'ailleurs sur cette esclave. Mon premier roman s'appelle Le sommeil de l'esclave. Et j'ai raconté la vie de cette femme qu'on a rasiée de son village natal. Et de main en main, elle est arrivée chez nous. Et moi, en fait, moi, j'ai été élevée par des femmes. J'ai été entourée de femmes. Et donc, évidemment, j'ai attribué un peu à maman des histoires qui venaient aussi de Dada, de l'esclave, de la servante, etc.
Revenons à ce roman, La nuit nous emportera, avec Samy, qui est obligé d'être le premier. Et en effet, il réussit ses études, il deviendra instituteur dans le roman. Il faut rappeler, Mai Binbin, que vous aussi, vous avez été professeur de mathématiques.
Oui, parce que dire à ma mère, à l'époque, je voulais chanter. Je voulais devenir un chanteur de charme. Oui, c'est vrai. Je suis musicien et elle m'a donné deux claques. Elle m'a dit, va à l'école. Elle m'a mis à l'internat à Rabat. J'ai passé 3 ans au lycée Moulay Youssef. C'est comme une prison. Je dormais là, je vivais là. Donc, la seule façon de sortir de cette prison, c'était de bien travailler. Donc j'ai fait des mathématiques et j'ai eu mon bac et voilà, et je me suis retrouvé à Paris difficilement, mais j'ai réussi à aller à Paris, faire l'université à Jussieu, à Paris 6, et voilà, après la maîtrise, l'ESS, j'ai commencé à enseigner, voilà. J'ai enseigné pendant 8 ans, hein. Donc l'instituteur, là, il y a toujours un fond.
Et après, à cette époque aussi, vous avez commencé de vous consacrer vraiment à la littérature, à la peinture, à la sculpture. Je me demandais, Mai Binbin, au Maroc, vous êtes connu plus comme écrivain, comme artiste, peintre, sculpteur?
Ça dépend chez qui. Chez les riches, c'est la peinture et la sculpture, parce que c'est cher. Et puis même les galeries, les gens ne fréquentent pas beaucoup les galeries, etc. Mais les livres en poche qui coûtent 1 euro, ils sont dans toutes les universités, ils sont les étudiants les lisent, parce que mon éditrice marocaine, Leïla Chaouni, le Fennec, elle fait des livres à 1 euro, 2 euros, et donc c'est accessible par beaucoup de jeunes. Et c'est pour ça que je fais toujours des coéditions entre les éditeurs français et mon éditrice. Il faut se battre, hein.
Alors justement, c'est un autre de vos combats culturels, Mai Binbin, le FLAM, le Festival de littérature africaine à Marrakech, que vous avez cofondé, qui se tient pour la 3e édition et d'ailleurs vous invitez des écrivains vraiment à la fois du continent de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, mais des autres endroits du monde. Quelle a été l'idée motrice de ces rencontres littéraires ?
D'abord, dans tout le Maghreb, on regarde vers le Nord, systématiquement. On est fasciné par le Nord. On ne regarde pas l'Afrique, on ne regarde pas derrière. Et c'est dommage. Tous les grands artistes africains que j'ai eu la chance de rencontrer ou de voir les œuvres, leurs œuvres, etc., je les ai rencontrés à Paris, à New York, à Berlin, mais jamais chez moi et jamais chez eux. Et alors, avec quelques amis, Fatimata Awan Sania, avec Younes Ajraï et Hanan Saidi, on dînait un soir ensemble et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et est née l'idée de créer un festival de littérature africaine à Marrakech. Et on l'a fait encore en kamikaze parce qu'on ne savait pas la difficulté de la chose. Et on a eu beaucoup de chance la première année puisqu'on a eu un parrain magnifique, le Clésio, qui a fait une leçon inaugurale qui est devenue un livre exceptionnel. Évidemment, quand il y a le Clésio qui apparaît quelque part, les autres écrivains disent « il y a de la qualité ». La deuxième année, pareil, on a donné la leçon inaugurale à Souleymane Bachir Diagne, un esprit hors du commun. Et cette année, la leçon inaugurale, ça va être Ananda Devi, magnifique. Et puis, le grand témoin, chaque année, on a un grand témoin. L'an dernier, c'était Edgar Morin qui a fait... du haut de ses 103 ans, un discours magnifique. Cette année, on a Christiane Taubira en tant que grand témoin. Non, on a des gens de qualité, c'est-à-dire les grands écrivains africains ou afro-descendants, parce qu'il y a des gens qui nous viennent des Dom-Tom, qui nous viennent des États-Unis, de partout. Et donc, c'est en train de prendre ce festival. Chaque jour, il y a du matin au soir... 500, 600 personnes dans la salle. Et on peut voir ça en streaming, les gens peuvent voir ça de loin, etc. Non, voilà, il faut réveiller la culture, c'est ça qui va nous sauver.
Tout à l'heure, vous nous confiez, Maï Binbin, que vous vouliez être chanteur. Ça va être l'heure de la pause musicale dans notre entretien. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre maintenant, ici, sur l'antenne ?
Tout ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est Barbara avec « Dis, quand reviendras-tu ?» J'adore Barbara. Je suis un fan de Barbara.
Et vous chantiez Barbara quand vous vouliez devenir justement interprète ?
Mais je ne changerai pas ici.
D'accord, on va l'écouter alors. On va l'écouter.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit, cette fois, c'est le dernier voyage pour nos pères déchirés. C'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne. Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu les femmes de marin.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec une émission spéciale aujourd'hui à Marrakech consacrée à l'écrivain, peintre et sculpteur Mahi Binbin qui nous accueille chez lui dans sa maison à l'occasion de la publication de son nouveau roman La nuit nous emportera, publié au Maroc aux éditions Le Fennec et en France aux éditions Robert Laffont. Alors on l'a dit en première partie, c'est une fiction mais c'est un livre qui dit aussi votre histoire familiale que vous n'aviez peut-être pas racontée auparavant totalement et que vous racontez ici, à savoir le portrait d'une femme et pas n'importe quelle femme, votre mère, une mère guerrière, une mère qui a repris ses études pendant qu'elle travaillait, qui a élevé seule 5 enfants dans le roman, qui conduisait une voiture toute seule, qui n'avait qu'une seule djellaba. Bref, une femme indépendante, une féministe, presque une avant-gardiste. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que vous évoquez ce type de femme forte. Vous l'aviez déjà fait avec le roman Rue du Pardon. C'est un thème qui vous est cher, Mahi Binbin. Pourquoi ?
D'abord, j'ai 3 filles. Et je voudrais qu'elle soit forte. Je ne sais pas faire les garçons, je sais faire les filles. Et moi, dans mes romans, il y a beaucoup de... Je me bats beaucoup pour changer les choses. Et c'est vrai que les femmes n'ont pas le même traitement. Là, il y a la nouvelle Modouana qui vient de sortir il y a quelques jours. Le statut de la femme est en train de changer. On peut pas trop le changer, mais il change quand même. Là, il y a eu une petite révolution au Maroc il y a quelques jours. Déjà, abolir la polygamie. C'est-à-dire, dans le contrat, la femme peut dire... Je ne veux pas qu'il ait une deuxième épouse. Pour vous, ça veut peut-être rien dire, mais ici, c'est une révolution.
C'est officiel.
C'est officiel. Si elle a des enfants, parce qu'en général, si elle a des enfants, elle peut pas se remarier. Sinon, le mari lui enlève les enfants. Maintenant, il ne peut plus. C'est-à-dire, on est en train de donner de plus en plus de droits à la femme. On peut pas dire la polygamie est interdite, parce que on ne veut pas avoir d'histoire avec les islamo, machin, ils vont sortir encore des salades. Mais on arrive à faire des freins, à aller vers la modernité sans entrer en guerre avec les religieux. Voilà. Donc, il y a des choses qui se passent là en ce moment pour la femme. C'est exceptionnel.
Donc, c'est votre mère aussi qui vous a inspiré cette vision féministe du monde ?
Absolument, absolument. C'était elle le chef d'abord, mais elle nous traitait de la même façon, les filles, les garçons, et on est très solidaires. Vous voyez les 4 maisons qui nous entourent, enfin les 3 maisons, c'est ma sœur, mon frère, mon autre sœur, on vit ensemble. Elle nous a appris à être solidaires, à vivre ensemble, à nous battre ensemble, voilà.
Alors Samy, le petit garçon, le narrateur là, de ce roman, La nuit nous emportera, lui aussi il incarne à sa façon un peu ce pan de la société qui est banni par nos cultures, à savoir ses préférences sexuelles. C'est aussi un thème que vous vouliez aborder, Mahi Binbin.
Dans beaucoup de mes romans, je parle de l'homosexualité. Il faut en parler, il faut la banaliser, il faut habituer les gens à... C'est pas grave, mon frère est homosexuel, c'est sa vie. En quoi ça gêne les autres ? Et dans ce pays, c'est encore pénal. L'homosexuel va en prison. Il y a des choses qu'il faut changer. Donc, dans ce cas, il y a quelques écrivains comme Taïa, par exemple, qui en a fait l'œuvre majeure de sa vie, et beaucoup d'autres qui en parlent, qui installent l'idée que ce n'est pas grave, c'est sa nature, il est normal, il n'est pas anormal. Dans ce pays, on pense que l'homosexuel est anormal, il est malade, mais c'est absurde. Et donc, dans beaucoup de mes romans, je mets l'homosexualité, je la mets en première ligne. Et ce petit garçon, je le décris, il est exceptionnel ce petit garçon. Samy est exceptionnel, il est sensible, il est fort, il est tout ce qu'on veut. Et il est amoureux d'un garçon. Et alors ? So what ?
Abdel Attaya, je le précise, qui effectivement a publié là récemment Le Bastion des larmes, mais qui effectivement a consacré toute son œuvre justement à mettre l'homosexualité au centre de la normalité des pays. Et puis ici, c'est également le portrait d'un frère aîné. C'est une figure qu'on retrouve souvent dans vos romans, My Bin Bin. Là, il s'appelle Abel. C'est un homme qui a été emprisonné pendant des années dans une des pires geôles du Maroc. Est-ce que vous voulez bien nous raconter pourquoi ce personnage revient à plusieurs reprises dans votre œuvre, dont Le Fou du Roi, entre autres ?
Quand mon père a quitté ma mère, le frère aîné est devenu un peu le père. Et donc, évidemment, tout l'amour que je devais porter à mon père est allé à mon frère aîné. C'est devenu mon père. Et en juillet 71, il y a eu le coup d'État de Skhirat. Il était un jeune lieutenant. Et il a été embarqué dans le coup d'État contre Hassan II. C'était les généraux, les colonels qui avaient décidé, pas les officiers, sous-officiers, les petits. Et il s'est retrouvé condamné à 10 ans de prison à Kenitra. À l'époque, les deux premières années, ils étaient à Kenitra, dans une prison normale. Et là, je raconte ça dans ce livre, tous les jeudis, avec ma mère, on prenait le panier, on faisait le voyage, c'était 5-6 heures d'autocar pour aller à Kenitra et lui donner le panier. Et j'ai ces souvenirs où il y avait deux grillages et au milieu, les matons qui passaient et les gens qui criaient et qui se parlaient. Et ça a duré comme ça 2 ans. Jusqu'au jour où ma mère est arrivée un jour pour voir son fils, et on lui dit, on n'a jamais eu ce fils, on n'a jamais eu cet enfant ici. On vous a, je ne sais pas. Et là, elle devient folle. Et elle continue à venir pendant des années. Elle continue à venir tous les jeudis. C'était incroyable. Tous les jeudis, elle allait avec son panier et qui finissait arraché par les pauvres qui traînaient là-bas. Et voilà, mon frère, il s'appelle Aziz en réalité, il a été absent pendant 20 ans et on les a mis dans cette... On ne savait pas. Au départ, on ne savait pas où ils étaient. Ils avaient juste disparu. Et donc, il était omniprésent à la maison. C'est-à-dire, tous les jours, quand on s'asseyait à table, il y avait sa part. Au cas où il rentrerait par hasard. Hey, « Hé, maman, ça fait... ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. » Et tous les jours, il y avait la part de l'absent posée à table. On était bien contents, quand on revenait de l'école, de trouver la part de l'absent. On la retrouvait toujours, c'était le goûter. Et donc, cette présence-absence, cette absence omniprésente, on l'a vécu comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans mon œuvre plastique, il hante tous les personnages, ils sont ligotés, ils sont cassés en deux, ils sont tous... Maintenant, ça se calme un peu. D'ailleurs, un jour, quand il est sorti de Tazmamart, il est venu me voir dans mon atelier et il me voyait encore en train de maltraiter les personnages. Il m'a regardé, il m'a dit, écoute Marie, moi je suis sorti de Tazmamart, mais pas toi, il faut que tu en sortes. Et vraiment, hein, il m'a dit, arrête, ça y est, c'est fini. Mon frère m'a dit, on était 29 dans le bloc B, il y avait deux blocs, A et B. On était 29, il y a eu seulement 4 survivants. Et ceux qui ont survécu, c'est les gens qui n'avaient pas la haine en eux, les gens qui ne portaient pas la haine dans leur cœur. Moi, j'ai jamais eu de haine ni envers mon père, ni envers Hassan II, ni envers personne. C'était mon destin. C'est une épreuve, il est devenu très religieux. C'est une épreuve qui m'a été infligée par Dieu et je l'ai accomplie. Et je n'en veux à personne. Parce que quand tu as la haine en toi, elle commence par te détruire toi-même avant de toucher les autres, si jamais elle les touche. Alors je n'ai pas de haine. Et tu ne devrais pas avoir de haine.
Pour revenir au roman La Nuit nous emportera, effectivement, donc la mère, elle est brisée par ce drame de ne plus retrouver son fils. La servante aussi, Johara, elle est dévastée, comme toute la famille. Alors du coup, on lui raconte des histoires pour entretenir un petit peu l'espoir. Et ce que vous écrivez est magnifique, My Bin Bin. Il fallait tisser un récit épique en harmonie avec les chimères de la servante dont le regard luisant disait toute la détresse. Par ailleurs, l'humeur de Johara avait des conséquences immédiates sur la qualité des repas. Quand elle était triste, sa cuisine s'en ressentait. Aussitôt, elle devenait salée ou piquante à l'excès, immangeable donc. Travestir la réalité était désormais une affaire de survie. Alors évidemment, c'est très drôle, mais en même temps, moi, ce que je retiens dans cette phrase, Mai Binbin, travestir la réalité, question de survie, est-ce que c'est le rôle aussi de la littérature pour vous, une façon de survivre ?
Mais je crée le monde où j'aurais aimé vivre. C'est que c'est ça la littérature, s'il doit y avoir une formule, c'est raconter, se raconter le monde où on a envie de vivre. Et c'est l'objet de tous mes romans.
Et vous écrivez aussi « Tenir la plume comme on tient une épée ». Ça veut dire quoi, ça, Mai Binbin ?
Ben, c'est un combat. Ma plume, elle peut faire plus de dégâts qu'une épée. Quand je raconte les choses qui ne vont pas, c'est un combat. C'est un combat physique, pratiquement. Je veux dire, c'est un combat, hein, l'écriture. On peut changer les choses, on peut... C'est pour ça qu'on emprisonne les écrivains. Ils dérangent souvent quand ils vont loin, parce qu'on peut aller loin, on peut convaincre, on peut changer les choses. C'est incroyable. La littérature a un pouvoir extrêmement important. Et puis, il faut dire aussi, l'écrivain africain n'est pas le même que l'écrivain occidental. C'est-à-dire ici, j'aime beaucoup hein, la littérature occidentale, on n'a pas le temps de regarder son nombril. Il y a tellement de choses qui ne vont pas. C'est-à-dire, l'écrivain se sent investi d'une mission donquichotesque de redresseur de tort. L'écrivain africain, c'est ça. Il y a tellement de choses qui ne vont pas qu'il est obligé de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, de parler des dictatures, de parler des choses graves. Hein. Et donc, l'écrivain a besoin de cette épée ou cette plume, on l'appelle comme on veut.
L'écrivain a une responsabilité.
Oui, il a une responsabilité.
Pour finir, je voudrais qu'on vous entende lire ces deux paragraphes. On ne dira rien de la fin, évidemment, parce que c'est un vrai roman. Mais je trouve que ces deux derniers paragraphes-là sont magnifiques et disent beaucoup sur être écrivain.
Écrire pour habiller de feu les ombres du passé, leur insuffler une voix et les écouter chanter. Allumer les lanternes et les inviter à danser sur une musique céleste. Écrire la vie avec sa grandeur, sa beauté, ses joies, ses peines, sa vilenie, ses lâchetés, sa violence. Si par malheur, le petit garçon frileux se taisait, s'il lui prenait la fantaisie de m'abandonner, de déserter notre abri commun, je ne m'en remettrais pas. Je serais incapable d'affronter seul la folie des hommes. Comment survivre à celui qui a donné un sens à ma vie, la réinventer jour après jour avec sa grâce, sa fraîcheur, sa gourmandise, ses châteaux de sable, son héroïsme, ses mystères, son goût de l'exploit, ses amours interdites, sa malice, ses voyages oniriques, ses mensonges, ses doutes, ses lubies, ses mots, ses frissons, sa féerie et tous les trésors lyriques de l'innocence. Ah, si le petit garçon frileux en allait.
Merci beaucoup, Mai Binbin, pour ce mot de la fin.
Merci, merci à toi.
Merci infiniment de nous avoir reçus ici chez vous pour ce très long entretien, à la fois pour parler de votre parcours exceptionnel, pour vos engagements, pour votre travail d'artiste et puis pour votre littérature incarnée ici par ce tout nouveau roman dont je rappelle le titre « La nuit nous emportera » publié aux éditions Le Fennec au Maroc et aux éditions Robert Laffont. Et on va se quitter sur notre gaie, votre rire peut-être, qui est tellement merveilleux.
Merci Catherine et bienvenue à Marrakech.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.